Le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir. Les discussions sur la réforme des retraites se poursuivront vendredi à Matignon autour de la proposition de la CFDT d'une conférence de financement. Le dossier de ce journal est consacré aux coulisses des négociations. Gallimard retire de la vente le journal de Gabriel Matzneff qui fait l'apologie de la pédophilie, une décision inédite sur laquelle nous reviendrons avec Cécile de Kervas-Doué. En Iran, les funérailles du général Qassem Soleimani tournent au drame. 50 personnes sont mortes dans la bousculade. En tuant Soleimani, on a pris la bonne décision, affirme le chef de la diplomatie américaine. Nous écouterons Mike Pompeo. Et puis en Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez est reconduit d'extrême justesse au pouvoir. Nous irons à Madrid. Bonne idée, répond Édouard Philippe à Laurent Berger. Les partenaires sociaux se retrouveront vendredi à Matignon pour le cadrage de la conférence de financement proposée par la CFDT. Le Premier ministre veut montrer que, même s'il veut avancer vite, il est ouvert aux discussions. Ce matin, syndicats et patronats ont été reçus au ministère du Travail, mais sur le fond, Annabelle Grelier, rien n'a bougé.
Le Premier ministre Édouard Philippe avait l'air satisfait.
Reprenez votre souffle, Annabelle. Vous allez pouvoir nous...
Le Premier ministre Édouard Philippe, donc, avait l'air satisfait. C'était une bonne réunion, a-t-il dit. Pourtant, les syndicats, à leur sortie, n'avaient pas l'air aussi réjouis.
Ah non, il n'y a strictement aucune avancée. Strictement aucune avancée. C'est l'écran de fumée depuis 2 ans.
François Méril, donc, de la CFE-CGC, est même au bord de l'exaspération.
Nous n'avons pas d'étude d'impact. C'est obligatoire. C'est écrit dans la Constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, normalement, s'il était saisi sur le projet de loi sans avoir l'étude d'impact, devrait retoquer le projet de loi. On en a ras-le-bol de ça. C'est insupportable. Il faut qu'on se mette d'accord sur des paramètres techniques, à savoir qui va payer, quoi, combien, qui va toucher, quand et comment, et quelles seront les catégories concernées.
Une étude d'impact que réclame également le patronat, MEDEF et CPME. Un patronat qui d'ores et déjà annonce qu'il exclut toute augmentation de cotisation pour financer le système. Un financement qui sera donc l'objet des discussions vendredi lors de cette nouvelle conférence qui avait été donc demandée par la CFDT et confirmée aujourd'hui par Édouard Philippe. Mais Laurent Berger attend toujours le retrait de l'âge pivot.
Moi, je souhaite que tout soit sur la table. Et vendredi, la réunion, elle sera une réunion de cadrage. Mais je le répète, dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel. Et si l'objectif, je le dis très clairement, de cette conférence de financement ou de la réunion de vendredi, c'est de recycler l'âge pivot, la réponse est non. Ou de négocier autour de l'âge pivot une adaptation de cet âge pivot, la réponse est non pour la CFDT.
Le gouvernement donc a 3 jours pour apporter une réponse définitive sur ce retrait, a renchéri l'UNSA. Mais le gouvernement ne semble pas prêt à renoncer. L'âge pivot figure déjà dans le texte du projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État. Quand la CGT, évidemment, Force ouvrière et la CFE-CGC, eux réclament toujours le retrait pur et simple de cette réforme.
Alors comme vous aujourd'hui au ministère du Travail, Annabelle, les journalistes sont souvent présents à l'entrée et à la sortie des grandes réunions, rarement à l'intérieur. Avec Pierre Neveu, Rosalie Lafarge, vous vous êtes intéressée aux coulisses de la négociation politique.
De ces grandes réunions, les journalistes et donc le public doivent souvent se contenter d'images à l'arrivée et de prises de parole à la sortie.
Bien, je dois dire que la négociation est très très difficile.
Ce qui serait intelligent, c'est qu'il y ait gel du plan Juppé, qu'il le retire et qu'on reparte à zéro, mais pour le moment, il n'en est pas question.
Nous avons dit au Premier ministre que nous ne souhaitions pas de sommet fourre-tout.
Chacun donne sa position à l'issue de ces grandes tables, mais souvent les déclarations de sortie sont déjà écrites ou presque écrites avant même la réunion, parce qu'en réalité, rien n'est laissé au hasard.
Les réunions multilatérales, ça se prépare.
Raymond Soubi en sait quelque chose, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy en a vu passer des négociations et il l'assure, tout le concret se joue en amont lors de contacts entre conseillers du pouvoir et des organisations syndicales.
Vous avez soit des rendez-vous bilatéraux officieux, donc qui ne sont jamais public, soit tout simplement le téléphone existe, des conversations téléphoniques qui permettent aux membres du gouvernement qui sont là, à l'avance, de savoir les positions de leurs interlocuteurs. Donc le travail des conseillers est, un, d'être un travail obscur, il ne faut pas que ça apparaisse du tout, est un travail de connaissance exactement du terrain et des réactions, et un travail de recherche des solutions de compromis possibles compte tenu des éléments recueillis.
Et parfois, les compromis s'arrachent justement de façon totalement officieuse. L'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, se souvient par exemple du dossier du contrat première embauche de Dominique de Villepin en 2006.
Pour sortir d'un conflit comme le CPE, c'est sorti grâce à des contacts bilatéraux. un week-end dans un endroit discret où j'avais retrouvé des conseillers, etc. Et on avait mis les cartes sur table et c'est là qu'on a commencé à mettre les bouts de ficelle pour la sortie. Quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est secret, mais vous pouvez vous parler plus franchement en bilatéral que dans une réunion où chacun joue sa place. Quand vous êtes nombreux autour d'une table, quand vous êtes 20 ou 25, chacun est en présentation. Puis tant que tout le monde parle, ça fait passer le temps. Hein. C'est un peu long également. Mais c'est important pour solenniser et terminer quelque chose.
C'est important finalement pour que tout le monde entende ce que chacun a entendu de son côté dans ces fameux rendez-vous bilatéraux. Mais comme c'est très préparé, c'est aussi très scénarisé.
Il y a des jeux de rôle, hein. Je veux dire, c'est une tragédie, comment dire, grecque, au sens... Il y a des moments, les syndicats quittent la table, s'en vont, reviennent 3 heures plus tard...
Et des moments où l'on fait en sorte que cela traîne. C'est l'un des souvenirs de François Gégère, spécialiste des retraites et ancien conseiller au ministère des Affaires sociales.
Il y a aussi un art de savoir... arracher des discussions au dernier moment quand les gens sont fatigués. C'est pour ça qu'on entend toujours des réunions qui durent très longtemps, parce qu'à un moment, on profite de la fatigue de l'un pour arracher le morceau. En 2007, sur les régimes spéciaux, ça s'est achevé par une réunion qui a fini très très tard et le directeur de cabinet, qui était un préfet, a demandé à ses cuisiniers de monter à toute vitesse un repas. Et ça a été plus facile de trouver un accord après avoir mangé et bu un petit peu. Quoi. Bon, c'est aussi des techniques. Hein.
Mais il n'y a pas que la réunion en elle-même qui est mise en scène. La sortie peut l'être aussi, souligne le politologue Bruno Cotresse.
Lorsqu'on voit les partenaires sociaux sortir de ces réunions, ils conservent évidemment une partie des informations pour eux. C'est aussi une ressource stratégique de ne pas dévoiler toutes ces cartes. Les leaders syndicaux ont une double fonction à ce moment-là. Ils s'adressent à leurs troupes, ils s'adressent au-delà, à l'ensemble des Français, à l'opinion publique qu'ils vont vouloir prendre pour témoin ou de leur bonne foi en montrant qu'ils ont fait des avancées et qu'ils n'ont pas été écoutés, ou de manifester leur indignation face à ce qu'ils vont éventuellement présenter comme un côté rigide et non ouvert à la négociation du Premier ministre.
Tout cela ressemble en fait à une grande pièce de théâtre, admet un ancien conseiller présidentiel, une pièce préparée mais pas inutile pour autant, puisqu'elle a au moins le mérite de montrer qu'un processus de recherche de compromis est enclenché.
Rosalie Lafarge, un dossier à retrouver sur francecultures.fr. Discret hommage ce matin devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert à Paris. 5 ans après l'attaque djihadiste contre le journal, les noms des victimes ont été lus devant leurs familles et leurs proches. Même rituel, boulevard Richard Lenoir où le lieutenant de police Ahmed Merabet avait été abattu, puis porte de Vincennes devant le magasin Hyper Cacher où s'était déroulée une sanglante prise d'otage 2 jours plus tard. Charlie Forever, c'est le titre du grand reportage d'Antoine Marette, diffusé vendredi dernier et toujours disponible en podcast comme sur le site de France Culture. Les 14 suspects soupçonnés d'avoir fourni un soutien logistique aux frères Kouachi et aux tueurs de l'Hyper Cacher, Hamidi Koulibaly, seront jugés à Paris à partir du 4 mai. Actuellement, c'est un autre procès qui se déroule aux Assises spéciales de Paris. Parmi les accusés, 24 djihadistes présumés, figurent les frères Belloucine, dont l'aîné est considéré comme le mentor d'Hamidi Koulibaly, ainsi que Quentin Roy, un jeune converti qui serait mort dans une opération suicide en Irak en 2016. Cet après-midi, la Cour a notamment entendu les parents de Quentin Roy, venu dire leur chagrin et leur désarroi. Retour sur le témoignage du père du jeune djihadiste présumé avec vous, Florence Turm.
Il parle sans discontinuer, grande silhouette massive qui se voûte parfois, dont la voix tremble par moments avant de se redresser et de poursuivre son récit. Incompréhension, peine, colère et rancœur mêlée. Je suis là pour parler de mon fils Quentin, commence Thierry Roy, un garçon élevé avec des valeurs universelles. Quelques mois après le tremblement de terre d'Haïti, mon pays d'origine, il a organisé une vente de gâteaux dans son école, récolté 4500 euros. Il pleure en racontant l'anecdote. J'ai du mal à comprendre ce qui est arrivé à cet enfant-là. Il n'a pas voulu entrer dans l'église pour l'enterrement de sa grand-mère. Quentin Roy a quitté la France le 22 septembre 2014, 2 ans après sa conversion à l'islam. Le 14 janvier 2016, sa mère a reçu un message lui annonçant sa mort en martyr. Depuis la Syrie, il a continué à communiquer avec ses parents tout en incitant ses amis à commettre des actions en France. La personne que vous êtes en train de juger, ce n'est pas Quentin, c'est Sally, celui qui a été rebaptisé par ceux qui se prétendaient ses amis, son son père. Sally, celui à qui on a lavé le cerveau, qui en est arrivé à renier toutes les valeurs familiales. Mais à chaque fois qu'on a demandé de l'aide, rien, déplore Thierry Roy. Entre la police qui conseille de maintenir le lien en estimant son fils radicalisé seulement à 70%, ou encore cette visite à la grande mosquée de Paris, vous verrez, ça lui passera, leur répond un proche du recteur. Des mails sans réponse et 2 ans plus tard, ce coup de téléphone improbable de l'une des secrétaires. Je vous appelle parce que vous avez oublié votre parapluie.
Florence Turm. Cédric Chauvia, le livreur en scooter mort dimanche après un contrôle routier à Paris, a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx à l'origine d'un malaise cardiaque lors de son arrestation. Ses premières indications livrées par le parquet de Paris soulèvent des questions légitimes auxquelles des réponses devront être apportées en toute transparence, indique le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le suicide de Christine Renon le 23 septembre avait ému toute la communauté scolaire. Cette directrice d'école maternelle à Pantin, en Seine-Saint-Denis, avait laissé une lettre qui imputait explicitement et précisément son acte à ses conditions de travail. Hier, la responsabilité de l'administration dans son suicide a été reconnue. Par ailleurs, la Direction générale des affaires scolaires vient de remettre les résultats d'une enquête menée auprès des directrices et directeurs d'école. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Quels sont les grands enseignements de cette enquête qui doivent ensuite donner lieu à des propositions?
Alors d'abord, malgré beaucoup de témoignages ces derniers jours qui pointaient le manque de temps des directrices et directeurs d'école pour répondre à ce questionnaire, justement, ils sont 29 000 à y avoir participé, soit 64% d'entre eux, un taux de réponse que le ministère juge important. Où il apparaît que cette charge, la direction d'établissement primaire ou maternel, est une charge plutôt choisie et que ceux qui la choisissent l'occupent longtemps. Mais cette charge est chronophage, selon une majorité des directeurs d'école, qui, rappelons-le, sont d'abord et avant tout des enseignants, et le télescopage entre leurs deux fonctions de direction-animation d'un côté et d'enseignement de l'autre est trop souvent perturbant. Surcharge de travail, stress, fatigue, manque de temps, voilà ce qui revient le plus côté négatif. Polyvalence, responsabilité, ça c'est ce qui revient côté positif. Dans l'ensemble, les directeurs et directrices regrettent que cette charge soit trop peu consacrée à ce qui fait, selon eux, le cœur de leur métier, le pilotage et l'animation pédagogique, pour faire court, alors que les tâches administratives, réponse au téléphone, au mail ou gestion de la sécurité aux abords et dans les écoles sont trop prenantes et très pénibles. Concernant enfin les besoins exprimés par ces directeurs et directrices, qu'ils soient matériels ou humains, c'est celui d'une aide qui revient le plus souvent, une aide pour ces tâches pénibles, justement, aide humaine, un ou une assistante, par exemple, aide en termes de temps, un nombre d'heures de décharge plus important, aide matérielle, portable professionnel, ordinateur qui marche, ou enfin aide en formation, notamment sur des thématiques juridiques. Les syndicats ont été informés il y a quelques minutes des résultats de cette enquête. Une première réunion aura lieu avec eux le 14 janvier pour déboucher sur des propositions concrètes d'ici les prochaines semaines.
Anne-Laure Chouin. Gallimard a décidé de cesser la commercialisation du journal de Gabriel Matzneff. Une mesure inédite pour la maison d'édition, prise alors que l'écrivain fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Enquête lancée après sa mise en cause dans le livre de Vanessa Springora, Le consentement, Cécile de Kervas-Doué.
Oui, le communiqué de la maison d'édition est court. Il rappelle que cette mesure exceptionnelle est liée à la force du témoignage de Vanessa Springora. Son livre chasse donc ceux de celui qu'elle appelle l'ogre, puisque les éditions de la Table Ronde, contrôlées également par Antoine Gallimard, ont aussi décidé de cesser de vendre les 5 volumes du journal de Gabriel Matzneff qu'elle commercialisait depuis 30 ans. La décision est tombée alors que le ministre de la Culture, Franck Riester, annonçait officiellement vouloir lui suspendre l'allocation publique dont Gabriel Matzneff a pu bénéficier depuis 2002. Une allocation qui depuis 1965 vient en aide jusqu'à leur mort aux écrivains ayant contribué au rayonnement de la littérature française et se trouvant démunis face à une situation de maladie ou de grand âge. L'enveloppe de cette allocation, qui concerne aujourd'hui encore 14 écrivains, s'élève à 144 000 euros par an, soit environ 10 000 euros pour chacun chaque année. Franck Riester.
Est-ce que Monsieur Matzneff, qui revendique le caractère autobiographique de ses récits, contribue à la renommée de la littérature française en se faisant, dans ses écrits, le chantre de la pédocriminalité? Je considère que non. Est-ce que son train de vie fastueux décrit dans ses livres justifie le versement d'une telle allocation? Je considère également que non. Peut-être qu'on peut se dire que dans l'absolu, il aurait fallu que les uns et les autres prennent conscience peut-être plus tôt de ce qui se passait avec cet écrivain. Il se trouve que là, il y a une prise de conscience. grâce encore une fois à la parole d'une victime, et des décisions sont prises.
Le ministre a donc promis que dorénavant l'allocation, qui n'est plus allouée hein, d'ailleurs depuis 2013, serait mieux contrôlée par une commission. Il a également promis que les décorations de Gabriel Masneff, qui a été fait chevalier des arts et des lettres, seraient réexaminées prochainement. Pendant ce temps-là, chez Gallimard, comme dans d'autres maisons d'édition, eh bien, la réflexion est bel et bien lancée et la boîte de Pandore sans doute ouverte face à tous les écrits, fictionnels ou non, pouvant être considérés comme pro-pédophilie.
Cécile de Carvaz-Doué. En Iran, l'inhumation du général Qassem Soleimani a dû être reportée. Une marée humaine s'est formée à l'occasion de ses funérailles et plus de 50 personnes sont mortes dans la bousculade. Le général Soleimani, commandant de la force Al-Quds, unité d'élite des gardiens de la Révolution, a été tué vendredi dans une frappe américaine ordonnée par Donald Trump, ce qui a ravivé les tensions entre la République islamique et les États-Unis. Pour Mike Pompeo, les États-Unis ont pris la bonne décision. Lors d'une conférence de presse organisée à Washington, le patron de la diplomatie américaine a une nouvelle fois justifié l'assassinat ciblé du général iranien.
Non seulement Soleimani a été responsable de toutes les choses que nous avons déjà évoquées ensemble, des milliers de morts en Syrie, des destructions énormes dans certains pays comme le Liban et l'Irak, où les Iraniens ont privé les peuples de leur souveraineté, de leur liberté et de leur indépendance. Tout ça, c'était l'œuvre de Soleimani, et plus récemment, on a aussi la poursuite de sa campagne de terreur dans la région. On connaît les événements de la fin décembre qui ont conduit à la mort d'un ressortissant américain en Irak. Donc si vous voulez avoir une idée de l'imminence de la menace qu'il représentait, il suffit de regarder les quelques jours qui ont précédé notre frappe contre Soleimani. J'ajoute qu'il était en train d'organiser une nouvelle campagne terroriste qui potentiellement aurait pu conduire à la mort de nombreux Américains. Donc on a pris la bonne décision, le département de la Défense a fait du bon travail et le président a pris une décision appropriée, légale et qui répond parfaitement à notre stratégie.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Vous savez que deux chercheurs français sont toujours emprisonnés à Téhéran. L'universitaire Fariba Aldelha et Roland Marshall ont été arrêtés en juin dernier. Ce matin, on a appris que l'accusation d'espionnage à l'encontre de Fariba Aldelha, en grève de la faim depuis le 24 décembre, avait été levée par la justice iranienne. C'est passé de justesse. Au terme d'une longue crise politique, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a obtenu l'aval du Parlement pour prendre la tête d'une nouvelle coalition gouvernementale. Il a recueilli 167 oui pour 165 non et 18 abstentions. La correspondance de Marie-Hélène Ballesteros.
48 heures après le premier vote de confiance, c'est toujours dans une ambiance très tendue que s'est déroulé le deuxième vote. Grâce à l'appui notamment de la gauche radicale de Podemos et de l'abstention des députés de gauche indépendantiste catalan de ERC et des basques de EH Bildu, le socialiste Pedro Sanchez a donc été reconduit au pouvoir. Une fois de plus, le bloc de droite, emmené par le Parti populaire, Ciudadanos et l'extrême droite de Vox, a crié sa colère en accusant les socialistes et ceux qui les ont soutenus de traîtres. Certes, Sanchez est reconduit et cela marque la fin d'une paralysie politique qui a duré des mois en Espagne, mais sa législature s'annonce compliquée. D'une part car il va devoir faire face à une opposition très crispée qui ne va pas l'épargner, et d'autre part car il sera à la tête d'un gouvernement minoritaire et devra donc négocier d'arrache-pied avec d'autres partis le vote de toutes les lois. Une législature qui marque aussi une nouvelle étape dans ce pays, car pour la première fois depuis la Seconde République en Espagne, en 1931, il va y avoir un gouvernement de coalition, un exécutif progressiste de gauche conduit par les socialistes et Podemos. Le temps du bipartisme semble bien révolu en Espagne. Le Parti socialiste espagnol et la gauche radicale de Podemos vont devoir apprendre à gouverner ensemble. Plusieurs membres de Podemos devraient d'ailleurs entrer au Conseil des ministres, dont le leader Pablo Iglesias, qui vraisemblablement pourra décrocher l'une des vice-présidences du nouvel exécutif. Pablo Iglesias que l'on a vu pleurer aujourd'hui dans l'hémicycle à l'issue du deuxième vote de confiance.
Marie-Hélène Ballesteros à Madrid. Les pompiers australiens sont engagés dans une course contre la montre. Ils s'efforcent de reprendre le contrôle des gigantesques feux de forêt avant la nouvelle vague de chaleur annoncée pour vendredi. L'équivalent d'un territoire grand comme l'Irlande est déjà parti en fumée. On compte 25 morts depuis le début de la crise australienne en septembre. Plus d'1,250 milliard d'animaux tués dans les flammes. Et l'Australie risque de brûler encore longtemps, prévient l'Organisation météorologique mondiale. On retrouve Jérémy Lanche à Genève.
Très loin d'être circonscrite à l'Australie, les fumées des incendies ont entamé une sorte de tour du globe, en commençant par l'Amérique du Sud. Les services météo du Chili et de l'Argentine les ont repérés hier, comme les habitants qui se sont interrogés sur le voile gris dans le ciel à Santiago ou sur la couleur rouge prise subitement par le soleil à Buenos Aires. Des images qui risquent de se répéter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Claire Nullis est la porte-parole de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale.
2019 a été une année particulièrement sèche en Australie. Les autorités l'ont d'ailleurs dit. La conséquence, c'est que la saison des incendies va être longue et très difficile. La tendance du climat en Australie, c'est que le pays va connaître des incendies plus intenses et qu'ils vont se déclarer beaucoup plus tôt qu'auparavant.
L'été vient à peine de commencer dans l'hémisphère sud et pourtant l'Australie a déjà battu un record de température le mois dernier avec une moyenne de 41,9 degrés en journée le 19 décembre. Après une accalmie, les températures devraient repartir à la hausse en fin de semaine, même si d'autres paramètres influent sur le risque d'incendie, notamment le vent. Mais qu'on ne s'y trompe pas, dit l'OMM. Le réchauffement climatique joue bien un rôle dans la catastrophe que vit l'Australie.
En France, le temps sera demain gris et humide sur la moitié nord, mitigé plus au sud, lumineux près de la Méditerranée. Au lever du jour, il fera entre moins 2 et plus 7 degrés, 7 à 11 dans le nord-ouest et le sud-est. L'après-midi, 7 à 15 degrés du nord-est au sud, jusqu'à 17 degrés sur le Pyrénéen, la Côte d'Azur et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.